Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous sommes aujourd'hui à Tunis, ou plus exactement aux portes de Tunis, à la Marsa, au lycée français Gustave Flaubert. Et en fait, nous avons planté notre petit studio mobile à l'occasion de la semaine de l'éducation aux médias et à l'information. Une semaine qui évidemment se déroule en France, mais aussi dans les établissements français de l'étranger. Et cette année, ce moment de débat sur l'éducation aux médias a pour thème « D'où vient l'info ?» Et évidemment, pose bien le problème pour la génération actuelle. Comment devenir un citoyen libre quand on s'informe avant tout par les réseaux sociaux, avec des textes courts, surtout des vidéos amateurs aussi. Lycéens aujourd'hui, eh bien, ils étaient des enfants au moment de la révolution tunisienne et de l'élan Facebook. Et dans ce pays, eh bien, cette semaine de l'éducation à l'école, de l'éducation aux médias, prend un sens assez particulier, même si elle ne concerne qu'une petite élite qui prépare un bac français, des élèves tunisiens ou biculturels qui sont les plus à même de nous dire ce que l'école doit apporter à la citoyenneté en devenir. Donc je vais vous présenter des lycéens qui participent à notre émission. Skander Kortobi, Majda Sassi, Sarah Hamdoun, vous avez tous les trois 17 ans, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Et vous êtes en première et en terminale au lycée Pierre Mendès France, hein, qui est un autre lycée dans la capitale à Tunis. Il y a plusieurs établissements français. Vous avez vous êtes particulièrement investi dans ce média démodé qui s'appelle la radio.
Ouais, on est parmi les exceptions à PMF qui avons
Pierre Mendès France, oui, le lycée Pierre Mendès France.
Pierre Mendès France qui a voulu intégrer la radio.
Une web radio du lycée.
Ouais, la web radio du lycée.
Et tout ça avec le conseiller principal d'éducation,
exactement,
Laurent Psalmon, qui est avec vous. Bonjour Laurent Psalmon.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Une web radio populaire dans le lycée ?
Assez populaire, donc elle existe depuis 5 ans.
Et pas de difficulté à recruter en début d'année ?
En début d'année, toujours. Parce qu'il faut du temps pour chercher les élèves, savoir s'il faudrait aller chercher dans les petites classes ou plutôt les lycéens. Et parce que les lycéens sont toujours hyper surbookés, et du coup...
Ah oui, on est surbookés quand on
ouais.
est lycéen.
Ah ouais.
Ouais. D'accord. Okay.
Et ils ont une mission, même les anciens, donc les élèves qui partent, ont pour mission de former les nouvelles recrues.
Salma Bouraoui, vous êtes une jeune journaliste au journal francophone Le Temps. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi jeune que la démocratie en Tunisie en tant que journaliste.
Oui, si on
veut.
On
peut dire ça comme ça.
Oui.
Vous êtes arrivée un peu par hasard dans le journalisme. Hein. Pas du tout à cause de la Révolution.
Non, ça n'avait rien à voir avec la Révolution.
Alors que c'était pile au même moment. C'est quand même
ouais.
incroyable.
Hein. Oui. Il faut croire que c'est ma destinée.
Ouais. Vous cherchiez du boulot, tout simplement.
Je cherchais du boulot et j'avais postulé d'ailleurs pour un poste de community manager. Voilà.
Et puis, propulsé.
Trois jours après. Trois jours après, je me suis retrouvée dans la salle de rédaction.
Ça va vite, hein, les médias en Tunisie.
Oui, très très vite.
Vous avez donc commencé votre carrière en 2011. Vous êtes chroniqueuse et productrice aussi au magazine d'actualité politique L'Express.
Sur
Express FM, qui est une radio privée. Également avec nous, on est ravis de les accueillir, des amis, des collègues, Ségolène Malter et Wassim Nasr. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Wassim. Vous êtes journaliste à France 24 et vous concevez alors un module qui a été assez remarqué qui s'appelle Info Intox, hein, à l'occasion de la semaine des médias, de l'éducation aux médias pour apprendre à repérer les fausses intox. Et puis vous produisez aussi Pas de quartier, des jeunes qui filment leur banlieue. C'est aussi une forme d'éducation aux médias.
Exactement, on essaie de les inclure un peu dans la production de l'information pour qu'ils se sentent mieux représentés.
En tout cas, ici au Club Radio, les jeunes ont pris l'habitude d'aller chercher l'info dans la ville et de voir par eux-mêmes, et d'ailleurs avec pas mal d'enthousiasme.
Envie de dépaysement, de verdure, de nature et de sortir en famille, évitez le belvédère. En effet, en ce moment, ce parc anciennement fleurissant voit son état se dégrader de jour en jour. Nous avons alors visité les lieux et cela ne nous donne pas l'impression qu'il y avait des intentions d'amélioration. Animaux maltraités, parc animalier quasi désert, verdure sèche fanée, la faune et la flore poussent leurs cris de détresse.
Les méfaits de la cigarette ne sont plus approuvés. Il est de notoriété publique que celle-ci nuit à la santé. Et pourtant, plus d'un Tunisien sur trois fume régulièrement. Qu'est-ce qui pousse nos concitoyens à se ruiner la santé en dépit de tout bon sens ?
Pouvoir sortir avec des filles.
Je suis amoureux d'une cigarette.
Oh, Laurent Psalmon, alors comment on mobilise des lycéens pour travailler dans une web radio à l'heure des réseaux sociaux où ils sont tous complètement connectés les uns avec les autres 24 heures sur 24 ?
Moi, j'ai pas besoin de les mobiliser, ils se mobilisent eux-mêmes. Voilà, ils sont très demandeurs, on va dire du moins au lycée Pierre Ménès France. Donc moi je suis arrivé, c'est ma première année hein, au lycée Pierre Ménès France, mais c'est-à-dire que voilà, je me suis retrouvé finalement embrigadé. Ben, c'est eux qui m'ont embrigadé, c'est pas moi qui suis arrivé.
Alors les autres lycéens écoutent les émissions qui ont été produites, les interviews, les petites chroniques, les revues de presse, à l'heure de la récré, de l'interclasse.
À l'heure donc il y a une diffusion.
À l'heure du
donc,
déjeuner.
Donc Scandère va pouvoir nous répondre, parce que c'est lui le grand animateur, on va dire, des journées. De diffusion, on va dire.
À la radio PMFM, donc nous diffusons à deux temps pendant la journée. Donc pendant la récréation de 10h, c'est essentiellement des pauses musicales. Et on essaie de diffuser un contenu assez approfondi durant les pauses méridiennes. Honnêtement, on a du mal à développer un contenu approfondi, surtout que nous ne sommes pas des journalistes professionnels. Par le biais de cette journée de l'éducation aux médias, on a bénéficié de formations qui vont nous permettre dans un futur proche de développer des émissions plus approfondies avec un fil directeur qu'on n'avait pas dans nos anciennes émissions.
Là, vous faites votre autocritique, là, d'emblée, en fait. Hein.
Voilà.
C'est ça.
En général, les émissions, c'était pas rédigé, donc en gros, on y allait, on improvisait. On choisissait le sujet de l'émission comme ça, direct. Comme l'a dit M. Psalmon, en fait, les professeurs qui encadrent la radio, c'est juste des professeurs encadrants et ils nous laissent complètement libres de, au début de l'année, faire des réunions, nous réunir entre élèves seulement, choisir les émissions que chacun va créer. Et après, dans ces émissions-là, en fait, ça change pendant l'année. Mmh. Parce que quand on trouve le temps, en fait, on fait des trucs vraiment fantastiques. Surtout après la formation qu'on a faite au CAPJC, tout est plus clair. Parce qu'on a eu des consignes précises. L'objectivité d'un animateur, enfin d'un journaliste.
Et est-ce que ça, c'est un monde nouveau pour vous, qui consommez essentiellement des réseaux sociaux? Comment vous vous informez dans votre vie quotidienne?
C'est facile. Je fais comme tous les jeunes, donc du bahut. Donc je pars sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Donc sur le fil d'actualité, par exemple, de Facebook, je vois des articles qui sont partagés par mes amis. Donc je lis l'article et j'essaye de vérifier les sources aussi, parce qu'il faut avoir un regard critique par rapport à ce qu'on voit.
Donc en fait, t'as pas choisi les articles, on te les a proposés. Ce sont tes amis qui font les rédacteurs en chef, si j'ai bien compris.
Exactement. Mais lorsque je trouve une information qui m'intéresse ou qui m'intrigue, je pars directement sur Internet. Enfin, sur Google, et j'essaye de taper l'information et de voir les différentes sources et les différents articles qui ont été proposés.
Mmh. Scander, toi, tu as un peu grandi quand même dans une culture de la radio, je crois.
Au fait, à vrai dire, depuis la révolution tunisienne, on est un peu bombardé d'actualités. Qu'on ouvre Facebook, on a toujours plein d'actualités qui nous tombent sur la tête. Qu'on monte dans la voiture, on a la radio, plein d'actualités qui nous tombent sur la tête.
Ouais.
Au fait, c'est plusieurs sources qui arrivent en même temps. Et il faut savoir trier, parce que surtout en Tunisie, on est une jeune démocratie. Je trouve que c'est très facile de manipuler l'opinion publique. Et cette manipulation de l'opinion publique s'observe surtout à travers les réseaux sociaux. Actuellement, on observe beaucoup d'avis négatifs sur l'état de notre pays. Pour moi, c'est un exemple de manipulation de l'opinion publique. Si les gens partagent du négatif, les gens vont devenir de plus en plus négatifs et ils vont partager encore plus de négatifs. Et donc, les gens auront plus tendance à mal parler de leur pays qu'à bien parler de leur pays. Donc, si on partage... Par exemple, dans le reportage qu'on a écouté tout à l'heure, il y avait une phrase qui m'a un peu frappé, c'est « éviter le parc du Belvédère ». Pour moi, c'est plutôt « aller visiter le parc du Belvédère, mais rendez-vous compte de certains problèmes ». Et que les patrons du parc essayent de corriger ou pas. Et donc, il faut plus rester sur un constat que sur une critique. Et donc, je pense que la neutralité au niveau des médias en Tunisie est encore à améliorer. Et les médias ne sont pas neutres du tout. On est forcé à avoir une opinion particulière.
Alors en face de vous, vous avez des professionnels qui travaillent beaucoup avec les réseaux sociaux et qui connaissent bien les jeunes, les pratiques des jeunes, hein, Ségolène Malter et Wassim Nasr, parce que quand vous filmez, quand vous aidez les jeunes à filmer leur quartier, notamment dans les banlieues françaises, vous leur laissez une caméra, mais évidemment c'est très encadré, vous observez bien leurs pratiques, leur défiance par rapport aussi aux médias classiques, et parfois aussi la façon dont ils tombent dans les pièges de l'intox. Comment vous voyez le problème aujourd'hui avec les jeunes et les réseaux sociaux, Wassim Nasr?
Ben en fait, le problème avec les réseaux sociaux, il est pareil partout. Hein. Que ce soit en Tunisie, à Paris ou au fin fond dans notre pays, sur un autre continent. Parce qu'il y a une profusion donc, d'informations et les jeunes s'informent beaucoup via les réseaux sociaux sans pour autant parfois aller chercher quelle est la source. Donc nous, ce qu'on a pu en tout cas constater, c'est qu'effectivement, il y a une vraie défiance vis-à-vis des médias. Donc il y a une recherche de l'info ailleurs. Ce qu'on a pu constater ailleurs aussi, hein, parce qu'on voit très bien que même des officiels de certains pays tombent dans l'intox ou font de l'intox. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Skandar, je vois bien que ce que vous voulez dire, c'est il faut partager plus d'infos positives. Mais quand vous dites qu'il faut partager plus d'infos positives, c'est aussi une prise de position. Hein ? Donc moi, je suis partisan et activiste de « il ne faut rien mettre sous le tapis ». Parce que ça fait partie des gros problèmes actuels, pas que pour la Tunisie, mais pour beaucoup de pays, donc en tout cas dans le monde arabe, et même des fois pour la France. Donc le rôle d'un journaliste, à mon humble avis, c'est de donner des éléments de compréhension, point. Et après, tout et chacun utilise ces éléments de compréhension comme il se doit, comme il peut ou comme il veut. Mais il faut faire confiance à l'auditeur et ne pas sous-estimer son intelligence et sa capacité de jugement, parce que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles les gens aujourd'hui rejettent les médias, parce qu'ils estiment que les médias sont condescendants, donneurs de leçons.
Milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Ségonel Malter, comment réagissent les jeunes quand vous travaillez finalement sur la remise en question de l'info, sur il faut prendre de la distance, et si ça c'était faux, mais d'où vient cette image, est-ce que tu as vérifié la source, etc. Qu'est-ce que vous observez dans les réactions des jeunes?
Non, mais c'est que les jeunes sont, par nature, ils doutent énormément de tout ce qui est dit dans les médias. Et il y a assez peu, en fait, de hiérarchie des sources qui est faite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va pas forcément donner beaucoup plus de crédit à un journal, je vais pas en citer, mais un quotidien national, qu'à d'autres sources sur Internet. Donc il y a vraiment tout un accompagnement qu'il faut faire pour expliquer ce qu'est un média qui est depuis très longtemps installé dans un territoire, etc. Ce qui est un site qui vient d'être créé ou qui vient de débarquer, on va pas en citer, mais il y a des médias russes en ce moment qui s'installent en France, qui sont quand même tout frais, même s'ils présentent bien sur le papier, sur le web, ont pas du tout la même qualité d'information que des médias reconnus. Et je pense que c'est peut-être d'autant plus difficile en Tunisie, où en fait il y a tout un tas de nouveaux médias, très jeunes, et que pour vous c'est difficile de peut-être de faire le tri entre, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément le recul du temps, et le temps est très important en fait.
Alors, je vais rebondir sur ce point, parce que je comptais en parler. En Tunisie, j'estime qu'en Tunisie, le vrai problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est les journaux électroniques. Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un journal électronique en Tunisie, on n'a pas besoin d'une autorisation particulière. Donc, tout le monde peut avoir son propre espace numérique. Bon, après, bien sûr, ils sont soumis aux mêmes lois de la presse écrite, mais on en compte par milliers.
Comment ils sont fabriqués, alors, vous, puisque vous êtes journaliste
pour Salma Bouraoui ? Il suffit d'avoir un compte, voilà, sur WordPress, d'avoir un bon graphiste pour avoir une belle présentation, et puis ça y est, on a un journal électronique. Et le journal électronique...
C'est très facilement illusion. Donc.
Très, très facilement. Il en existe par milliers, des milliers en Tunisie. Et ces journaux électroniques, ils se basent justement sur les réseaux sociaux pour avoir leur information, entre guillemets. Mais ici, il y a un autre problème, parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques en Tunisie, les ambassadeurs aussi, on le voit de plus en plus souvent, ils communiquent via Facebook, ils communiquent via Twitter, donc ils obligent quelques médias sociaux à se baser aussi sur les déclarations Facebook et Twitter. Donc après, l'internaute, surtout les jeunes, ils ont du mal à choisir la vraie source d'information. Et l'autre problème très important pour moi, c'est que comme on a une crise de lecture, les gens, les jeunes surtout, lisent les titres généralement, sans aller vers le contenu.
C'est en France aussi, les titres sont très rarement, voire jamais, écrits par le rédacteur lui-même. Oui. Le titre et le chapeau, c'est écrit par quelqu'un. C'est son métier d'écrire le titre et le chapeau pour faire en sorte que l'article soit partagé et diffusé. Des fois aussi, les titres sont mensongers sur certains sites, mais ils sont souvent, très réducteurs, même dans les vrais médias.
Est-ce que vous avez l'impression d'être manipulé en tant que lycéen ou pas? Ou finalement privilégié en étant dans un lycée français où il y a des programmes d'éducation aux médias? Vous vous sentez vulnérable ou pas, tous les trois?
Vulnérable, oui. Surtout en ce moment, en fait.
Je fais attention à tout ce qui a un rapport avec la manipulation des médias, parce que je me suis rendu compte que, par exemple, le feed Facebook nous faisait ses propositions en rapport avec ce qu'on tapait sur le clavier et dans les autres onglets. Et du coup, je me suis dit, ok, d'accord, on est suivi. Et même ce que je regarde, que ce soit vidéo ou image à sensation ou pas, ou les titres justement, où après il n'y a rien du tout dans l'article, il n'y a aucun contenu, à chaque fois je vais vérifier. Parce qu'on nous sensibilise à ça à l'école. En nous faisant travailler sur les articles en question, en nous faisant rédiger des revues de presse, en nous vendant les journaux, par exemple, chaque chouk a le journal du lycée, maintenant on l'a Marzine, on l'a sur le site du lycée aussi. À la radio, on en parle maintenant aussi, et du coup, ça va.
En fait, je voulais revenir sur ce point-là, parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tendance à voir le titre, et puis d'un coup, lorsque ça attire leur attention, ils partagent directement. Et en plus, ils partagent ça avec un commentaire en haut du lien du partage. Et après, il y a bien sûr beaucoup de commentaires qui vont venir d'autres amis. Et il y aura une sorte de débat qui va construire l'information, alors que l'information même est peut-être fausse. Donc c'est ça le problème. Après, oui, je me sens avantagée par rapport aux autres, parce que dans mon lycée, on nous apprend un peu plus.
Par rapport aux autres lycéens en Tunisie, par exemple,
oui,
c'est ce que tu veux dire?
Oui, exactement. Les autres lycéens qui étudient dans un lycée étatique tunisien ou même privé, on sent que, franchement, ils ne sont pas tellement éduqués. Par exemple, nous, les profs d'histoire géo, par exemple, ils consacrent quelques minutes de leur cours pour nous apprendre un peu plus à avoir un regard critique par rapport à ce qu'on est en train de lire et à comparer nos sources.
On va bientôt rendre l'antenne pour la fin de cette première partie chez 7 milliards de voisins. Nos amis de France 24, Ségolène Malter et Wassim Nasr, doivent nous quitter parce que vous allez animer des ateliers avec les lycéens du lycée Pierre Mendès France et les lycéens aussi de Gustave Flaubert. Mais par rapport au travail que vous faites avec les jeunes dans les quartiers en France, des jeunes qui viennent pas des mêmes milieux sociaux hein, que les lycéens qu'on a ici. Qu'est-ce que vous voyez comme différence principale par rapport à la défiance, par rapport à la curiosité, par rapport à l'intérêt pour l'information, la vraie, la fausse, l'intox, Ségolène?
Bon, c'est sûr qu'ici, on touche plus à une élite. Hein.
Une élite dans un pays fragile. Donc...
Oui, bien sûr. Donc la question est assez similaire. C'est la défiance est énorme et donc il est d'autant plus important d'éduquer et d'amener vers les bonnes sources et d'ouvrir, je pense, les médias pour qu'on rentre dans une relation de confiance aussi, qu'on relance une relation de confiance avec ces habitants-là et les médias.
Et c'est ce que vous faites, Wassim Nasr, avec Pas de Quartier?
Oui, exactement.
Vraiment un travail d'équipe avec les jeunes.
C'est ce qu'on fait et ce qu'on constate avec Ségolène, en tout cas, dans toutes les émissions qu'on a tournées, qu'il suffit de très peu pour intéresser ces jeunes, pour que ces jeunes fassent le premier pas. Il suffit de leur montrer qu'on leur fait un minimum de confiance, qu'on les intègre à la construction de l'émission pour qu'ils se donnent à 100%.
Et qu'ils vous fassent confiance aussi à vous en tant que journaliste?
Oui, bien sûr, mais ça, c'est avec le temps. Parce que nous, quand on y va... on n'y va jamais à chaud. On y va souvent, des mois à l'avance, expliquer ce qu'on veut faire, quel est le but de l'émission. Et après, on voit le retour. Mais maintenant, bon, vu qu'il y en a plusieurs émissions qui ont été tournées, ça devient notre carte de visite. Et ce qui nous fait plaisir à nous, et Ségolène ne va pas me contredire, c'est qu'on sait que ces émissions sont partagées. Et après, ça nous échappe. Donc on voit les jeunes de différents quartiers partager une émission ou une autre.
C'est
et ça, ça
émission,
nous fait plaisir.
Ils
exactement.
Se l'approprient, évidemment.
Exactement.
Merci à vous, Wassim Nasr et Ségolène Malter. On vous laisse filer pour préparer votre atelier d'éducation aux médias. Info Intox à Tunis, donc au lycée Gustave Flaubert. Les autres, vous restez avec nous, bien sûr. Salma Bouraoui, jeune journaliste tunisienne pour un journal francophone. Les lycéens aussi. Retour à Paris pour le Flash. On se retrouve juste après. Quelle éducation aux médias pour des jeunes qui grandissent avec les réseaux sociaux et les vidéos amateurs, et de surcroît dans une démocratie récente comme la Tunisie. 7 milliards de voisins, retour dans 3 minutes, restez avec nous.
Écho d'ici, écho d'ici.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins et 6 millions de Tunisiens connectés sur Facebook selon une récente étude de l'agence tunisienne Medianet Labs. Alors, quelle éducation aux médias pour les jeunes? D'où vient l'info? C'est un peu le débat de cette semaine dans les lycées français de la capitale, en écho avec les initiatives en France, puisque c'est la semaine de l'éducation aux médias et à l'information. Nous sommes dans un pays où la défiance vis-à-vis de l'information perdure largement, qu'elle émane de médias publics ou privés. Les réseaux sociaux sont aussi un média participatif qui apporte sa part de vérité. On en discute avec vous, Salma Bouraoui, jeune journaliste au journal francophone Le Temps et puis aussi à la radio Express FM. Également avec nous, Laurent Psalmon, conseiller principal d'éducation, et puis des lycéens. Il y a Skander, Majda, Sarah aussi. Vous êtes en première, en terminale. Ils font tous partie du club radio que vous animez, vous, Laurent Psalmon, en tant que conseiller principal d'éducation. Frida, qui est une élève de 4e, nous a rejoint. Frida, bonjour.
Alors, je m'appelle Frida Benayet, je suis en 4e au lycée Gustave Flaubert. Et j'aurais une question pour vous. La première chose qui vous vient à l'esprit dès qu'on vous dit éducation aux médias?
Alors, Laurent Psalmon, puisque c'est ce que vous faites en fait, hein, en partie avec cette web radio qui est diffusée pendant les temps de pause, avec des revues de presse, des reportages fabriqués par les lycéens eux-mêmes, sur cette éducation aux médias.
Oui, c'est chercher l'information, c'est aller, c'est creuser l'information, ne pas s'arrêter finalement à une seule information, mais de croiser l'information, c'est ça le but. Pour moi, ça rentre dans le parcours citoyen, c'est-à-dire pour en faire des citoyens éclairés.
Salma Bouraoui, vous êtes une jeune journaliste, donc vous n'êtes pas payée pour faire de l'éducation aux médias. Néanmoins, quelle éducation aux médias vous avez reçue, puisque vous avez 29 ans?
27 ans.
Comment vous êtes arrivée à ce métier-là et quelle conscience déjà de l'information vous aviez? Vous avez démarré au moment de la révolution tunisienne. Comment s'est forgé en fait vos certitudes, vos doutes aussi sur la manipulation par rapport à l'information dans votre pays?
Alors moi j'ai eu la chance d'avoir été formée par une grande dame, Viviane Bataïb, qui a mis l'accent au cours de ma courte formation, très courte formation, sur l'éthique et la déontologie. Donc je ne jure plus que par cela, du coup. En ce qui concerne l'information, alors moi j'ai assisté à une triste scène lors de 2012, après donc les premières élections législatives tunisiennes, et c'était des administrateurs, entre guillemets, de grandes pages Facebook tunisiennes, qui passaient des contrats avec quelques acteurs politiques. Il y a des gens qui ont fait fortune avec ce genre d'initiative.
De l'info fabriquée.
De l'information fabriquée et surtout de l'intox. C'est-à-dire, Sarah est ma rivale lors des prochaines élections. Moi, je ne vais pas me focaliser sur ma propre candidature, mais je vais me focaliser sur la sienne plutôt. Et je me fais aider par des pages Facebook et des comptes Twitter. Et c'est là où j'ai réalisé l'impact de la manipulation des réseaux sociaux, en fait.
Et aujourd'hui, comment vous travaillez en tant que journaliste dans ce paysage tourmenté des médias tunisiens?
Alors tourmenté, oui et non, parce qu'on commence quand même à avoir un cadre législatif déjà qui organise un peu. On a l'AECA, la haute
autorité de contrôle,
qui s'occupe de l'audiovisuel. Donc déjà, on commence à respirer. Par la suite, j'ai la chance d'être journaliste dans un pays où on s'ennuie jamais. Il y a toujours de l'information, il y a toujours de la matière. Après, bien sûr, après 6 ans de travail, on a le carnet d'adresses qu'il faut pour vérifier les sources, pour aller directement à l'origine de l'information. Donc, je crois qu'on commence quand même en Tunisie à se rendre compte des manipulations et des intox.
Laurent Psalmon?
Non, je voulais juste rappeler quelque chose par rapport à Facebook. C'est-à-dire que c'est ma 4e année en Tunisie et c'est vrai que Facebook en Tunisie, ça a vraiment une grande, grande importance. Que je n'ai pas retrouvé moi en France. À la limite, je trouve que vraiment Facebook en Tunisie, c'est vraiment, vraiment, vraiment développé.
C'est vrai qu'en France, les Français, ils sont plus, ils utilisent plus Twitter que Facebook.
Je crois qu'on a un petit complexe par rapport à Facebook parce que Ben Ali l'avait en 2007 ou 2008. Il avait suspendu. On n'avait plus accès à Facebook comme on n'avait plus l'accès à YouTube, par exemple. Donc ça nous restait, c'est pour nous, c'est Facebook.
D'ailleurs, on n'est pas encore rassasiés de Facebook.
Voilà, mais en 2011, il y avait une initiative sur Facebook, ça s'appelait le journalisme du citoyen. Et c'est une initiative qui a très bien fonctionné. On avait des vidéos très bien faites, des photos, des reportages. Après, ça a disparu du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi. Mais j'en garde de bons souvenirs.
Mais, alors, vous-même, vous êtes éduqué aux médias grâce à votre établissement scolaire, bon, que ce soit le lycée français Pierre Mendès France ou Gustave Flaubert, les lycéens. Mais vous-même, vous allez dans les écoles primaires aussi parler à des plus jeunes ?
Oui. Nous avons donc visité les locaux de l'école primaire Robert Desnos, qui se situe au fait sur le même terrain que notre établissement, donc on n'est pas allé très loin. Et nous sommes allés poser des questions aux élèves de CM2 ainsi qu'à leurs maîtresses sur l'éducation aux médias. Donc nous avons préparé des questions Sarah Amdoun, Maïsé Najmi et moi-même sur la place qu'occupait l'éducation aux médias dans leur programme scolaire. Hein.
Donc, à des enfants d'une dizaine d'années.
À des enfants d'une dizaine d'années, c'est ça.
11 ans. C'est pas un peu
tôt ? 11-12 ans. Bah, on s'est rendu compte que ces enfants étaient assez sensibilisés par rapport aux questions de vérification des sources, aux questions d'info intox.
Ce serait bien aussi d'accéder aux élèves enfin, de l'école étatique et même les élèves les plus défavorisés. On commence très tôt et on les éduque, on essaye de leur apprendre un peu plus sur les informations. Comment agir face aux informations. Bon, peut-être qu'à 10 ans, ils lisent pas forcément des journaux, ils traversent pas les réseaux sociaux, mais au moins, ils auront un petit avant-goût de ce qu'il faut faire, en fait.
Dans votre web radio, est-ce que vous êtes libre des sujets que vous voulez aborder ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. On est libre.
Complètement ?
Oui. Oui, on est libre.
Non, donc, vous pouvez parler de tout ?
Oui.
De sexe ?
Oui, oui. Bah oui. Oui, tu vois pas.
On est, enfin, y a pas on de est libre de choisir chaque sujet. Oui,
peut-être que pas... c'est un tabou, mais non, la société voit ça comme un tabou, mais à l'école, je pense qu'on a le droit. Le CPE peut vous dire.
Vous l'avez fait ?
Enfin, on n'a pas eu l'occasion.
Non, mais je pense qu'ils s'auto-censurent eux-mêmes.
Bah ça, on aborde un vrai sujet.
Par exemple, pour Hifoshi, bon, ils viendront tout à l'heure.
Le mouvement Il pour elle, hein,
oui,
qui,
voilà.
qui est impulsé par les Nations Unies, ou qui essaye de sensibiliser de jeunes garçons aux droits des femmes.
De jeunes garçons et de jeunes filles.
Et à l'égalité des garçons et des filles.
Ouais. Voilà. Et donc, le club Hifoshi, justement, du lycée, passe des fois par la radio pour transmettre des informations, sensibiliser les élèves. Et ça, c'est sur des sujets comme, par exemple... Est-ce que les garçons ont le droit, je sais pas, d'être homosexuels ? Alors que c'est censé être tabou. Mais Nedir Khali, je me souviens, avait fait un dessin avec le chat Willis dessus, où elle avait écrit « À partir du moment où on en parle, c'est plus tabou ». Et justement, genre, c'est quelque chose de formidable ici en Tunisie, parce que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé depuis la Révolution.
Justement, sur les sujets tabous, notamment des sujets de société en réalité, mmh. hein, qui sont corrélés à la religion, Salma Bouaoui, il y a à la fois un déferlement sur les réseaux sociaux, un peu incontrôlé, et puis en même temps, beaucoup de verrous. Comment vous vivez ce paradoxe en tant que journaliste ?
Alors moi, je ne vis aucun paradoxe, parce que je n'ai pas la langue dans ma poche. Il y a des dossiers, des affaires, des causes que j'estime miennes. Donc j'en fais ma cause. Et je ne prétends pas la neutralité dans des sujets pareils. La violence faite aux femmes, la discrimination raciale, la discrimination sexuelle, le combat contre le terrorisme, pour moi, c'est des sujets où il n'y a pas de neutralité. Par exemple, moi, je ne dis jamais des combattants, ni des djihadistes. Je dis terroristes. Je ne dis jamais que c'est un homme qui a par erreur frappé une femme. Je dis que c'est un homme violent, qui a violenté une femme et qui doit se soumettre à la loi tunisienne. Bon, après ça, j'ai la chance de travailler dans des médias qui me permettent aussi d'avoir cette liberté d'expression, parce que j'ai dû quitter quelques postes à cause de ce genre de papier ou de reportage.
Vous avez sillonné déjà à peu près tout le paysage de presse, médias, audiovisuels de Tunisie, non ? En tant que pigiste, enfin jeune journaliste,
pigiste,
qui vend ses services, qui essaye de s'en sortir.
Oui, j'ai. Vous savez, moi, avant les médias, j'ai fait les centres d'appel.
Pour vendre des produits, répondre à des...
C'était plutôt pour des services après-vente.
En tant qu'étudiante, pour gagner un peu
d'argent. J'étais étudiante. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, j'étais étudiante aussi. Non, mais pour vous dire, je garde toujours une autre voie pour moi. Je me dis que le jour où je ne trouverai plus de support médiatique qui m'accepte tel que je suis, qui accepte mes orientations ou ma ligne éditoriale, je quitterai le monde des médias. D'ailleurs, j'ai failli reprendre les centres d'appel l'année dernière. 2014, j'ai eu 2 mois de chômage et je me suis dit, voilà, c'est fini, je reprends les centres d'appel.
C'est fini parce que vous ne trouviez plus de travail comme journaliste ou vous ne trouviez plus le travail pour lequel vous n'aviez pas honte en tant que journaliste.
Voilà, voilà. C'était la campagne électorale, donc la pression était à son comble. Fallait bien choisir où mettre ses pieds et ce n'était pas du tout évident. Et à un moment, je me suis dit, bon, j'arrête, je reprends les centres d'appel et comme ça, je suis tranquille et fidèle à moi-même.
Je trouve que c'est un beau message motivateur parce que lorsqu'on nous dit que... J'ai failli arrêter la carrière de journalisme juste parce que, on m'interdisait de m'exprimer à travers mes articles ou de dire telle ou telle chose. Je trouve que
on essayait plutôt de m'orienter.
Oui, voilà, orienter. Voilà. Je trouve que c'est un beau message parce que, avant tout, c'est ça un journaliste. Un journaliste, ça prend des informations et ça écrit, ça touche d'écriture.
Parce que depuis tout à l'heure, on parlait justement de l'information, mais un journaliste aussi, ça écrit des papiers d'opinion.
Oui, c'est ça.
Il choisit des intervenants. Par exemple, moi, aujourd'hui, je peux choisir Skander, je peux ne pas choisir Sarah. Voilà, on ne peut pas être à 100% objectif.
Ouais.
On a une ligne éditoriale, on l'a choisie et on doit être fidèle à l'éthique et à la déontologie. Ça, je suis très à cheval sur le sujet.
Mm-hmm.
Mais après, on a des lignes éditoriales, on a des orientations qu'on choisit en son âme et conscience.
Ouais.
Par exemple, moi, aujourd'hui, je ne peux pas quitter Express FM et aller à une autre radio dont je connais la ligne éditoriale, qui ne me ressemble pas.
Mm-hmm.
Donc, je ne le fais pas. Je préfère, au pire, arrêter ma carrière de journaliste plutôt que d'aller travailler dans un truc qui ne me ressemble pas. Voilà.
De voisins sur RFI. L'émission est délocalisée. Nous sommes installés, on a planté notre studio mobile au lycée Gustave Flaubert de la Marsa. C'est aux portes de Tunis et on est rassemblés à l'occasion de la semaine d'éducation aux médias et à l'information qui évidemment se tient dans tous les établissements en France mais aussi dans les établissements français de l'étranger. Et on a des lycéens autour de la table. Ça discute sec autour du rôle du journaliste, de la place des réseaux sociaux, Facebook évidemment, qu'il consomme à grande échelle et puis sur le devenir des médias dans un pays comme la Tunisie. Et les lycéens, on vous a laissé libre du petit programme musical de l'émission. Qu'est-ce qui désannonce et qui fait mon job là?
En fait, on a choisi la chanson d'Emel Mathlouthi qui s'appelle Kelmti Harra.
La parole est libre.
Voilà. Pour moi, cette chanson est vraiment... c'est vraiment le symbole du changement qu'on a vécu durant notre enfance. On a atteint la liberté d'expression. Kelimti Harra, ma parole est libre. Donc c'est un symbole de la libération de l'homme, la libération de la parole.
Tous les quatre, vous faites partie de l'élite du pays. Vous êtes dans un établissement élitiste. En quoi vous vous sentez concerné aujourd'hui en tant que lycéen avec les difficultés de votre pays? Le chômage des jeunes notamment, ça peut être le terrorisme.
Pour ma part, avant d'être dans un établissement français, je suis avant tout tunisien et 100% tunisien, donc je suis obligé d'être concerné par les problèmes que connaît mon pays, les avancées, les différents problèmes que connaît mon pays. Après tout, plus tard, je ferai partie de la masse salariale de mon pays, je serai employé tunisien dans une entreprise tunisienne.
Tu en es sûr de cela ?
Plus tard, j'aimerais bien aller étudier à l'étranger et revenir apporter les compétences que j'aurais acquises, ouais. Les réinvestir en Tunisie.
Ça veut dire que papa et maman t'ont programmé pour aller faire des études là, en dehors du pays ?
C'est pas eux qui m'ont programmé, c'est moi.
D'accord, mais tu comptes bien revenir ?
Je compte bien revenir, non, je quitterai jamais mon pays, surtout dans cette situation-là. Peut-être qu'avant la révolution, j'aurais eu une autre opinion, une opinion différente, mais là, à ce moment-là, je reviendrai dans mon pays et je ferai avancer mon pays.
Tu n'es pas représentatif des jeunes Tunisiens aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont un peu plus âgés, qui sont étudiants, qui sont diplômés chômeurs. Les chiffres sont impressionnants du nombre de le pourcentage de jeunes qui veulent partir. On parle de 2 jeunes sur 3 qui chercheraient à partir. Skander.
Au fait, j'ai été éduqué dans une certaine bulle et donc je ne peux pas me prononcer sur ce que subissent les autres personnes. S'il y a autant de personnes qui disent qu'il y a un problème d'emploi, c'est qu'il y a vraiment un problème d'emploi. Après, l'État essaye d'améliorer ça ou de ne pas améliorer ça, je ne sais pas, aucune idée.
Nous n'oublions pas que nous sommes dans une période de transition, que ça fait que 6 ans qu'ont eu les événements du 14 janvier, qu'on va, qu'on le veuille ou pas, forcément aller sur la bonne voie, que la Tunisie ne peut pas continuer comme ça, que l'instabilité politique ne pourra pas continuer comme ça, et que je suis sûre, c'est un optimisme peut-être, c'est du réalisme peut-être aussi, je suis sûre que d'ici quelques temps, la Tunisie va retrouver son vrai éclat, loin de la langue de bois qu'on nous raconte au quotidien.
Sur petite information, il y a un beau mouvement, on va dire, citoyen qui s'est mis en place depuis quelques années, donc... par différents élèves, donc des élèves, on va dire, des établissements dits élitistes, Gustave Flaubert, le lycée Père Mendès France. Même maintenant, ils ont réussi à meuter d'autres lycéens, on va dire, des différents établissements étatiques. Et c'est une association qui s'appelle Walla Weekend. Et ils œuvrent, eux, ne serait-ce que pour une refonte du système éducatif tunisien. Donc voilà, il y a quand même une volonté de cette jeunesse.
Donc Walla Weekend, ça veut dire...
Voilà.
Je vous jure qu'on peut.
Voilà. Et donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Je sais que voilà, ils sont partis dans les différents gouvernorats, on va dire, de Tunisie, pour vraiment avoir des porte-paroles des différents gouvernorats, pour essayer de faire changer les choses. Donc c'est
la fibre est là aujourd'hui.
La fibre est là. La fibre est présente.
Qu'est-ce que dans votre génération, c'est-à-dire la toute jeune génération, puisque vous êtes même pas majeur, Majda, Sarah, Skander, vous avez le sentiment que vous serez peut-être plus à même, plus volontariste pour construire la Tunisie de demain, parce que les autres avant vous ont essuyé les pots cassés.
Je sais pas pour moi, mais bon, c'est un peu pareil que Skander, je veux partir et revenir, et pour cette raison, parce que vraiment je déteste voir l'éducation en Tunisie, enfin le niveau qu'on a atteint surtout, et du coup j'ai un projet qui est peut-être utopiste, mais je voudrais devenir enseignante et revenir et créer une sorte d'association qui ressemble un peu aux Médecins Sans Frontières, mais formée d'enseignants. Et après, aller là où l'éducation ne va pas, aller dans les endroits les plus reculés et donner au moins la base, enfin ce qu'il faut, quoi, pour pouvoir continuer. Et aussi essayer de sensibiliser les gens. Parce que Skander fait partie de Walla Weekend. Et vraiment, les actions qu'ils ont faites dans un des lycées pilotes au nord de la Tunisie, franchement, c'est fantastique.
J'étais pas encore à Walla Weekend.
Mais
je veux dire que ça faisait uniquement 2 semaines que j'y suis. Nous, on a on a hérité d'un système éducatif qui est assez développé. À l'époque de Bourguiba, je pense que le premier budget d'État, c'était le budget de l'éducation. Du coup, je pense que nous avons les moyens de développer notre système éducatif étatique. Mais après, il faut la petite étincelle qui va lancer l'avancée de ce système éducatif et l'avancée à long terme de notre pays vers la démocratie. Mmh.
Mmh. Salma Bouraoui, vous, en tant que journaliste, comment vous voyez l'évolution des médias en Tunisie, mais aussi à titre personnel en tant que femme journaliste ?
Alors, en 2015, j'avais mené une petite étude avec l'Institut international pour la paix sur la parité au niveau des médias. Et il est vrai aujourd'hui...
Parité homme-femme.
Parité homme-femme au niveau des médias, de la représentation, que ce soit au niveau, je ne sais pas moi, vous avez une association, je vous appelle, je vous demande de m'envoyer un invité, généralement j'ai le droit à un homme. Vous avez un parti politique, je vous appelle, vous m'envoyez un homme.
C'est la même chose en France, hein, je vous rassure.
Oui, mais lors de l'étude que j'avais menée, j'avais constaté qu'il y avait aussi un problème du côté des femmes. C'est très cliché ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Quand j'appelais des femmes, quand j'étais à la télévision, elles me disaient « Non, aujourd'hui, je peux pas. Il y a le coiffeur qui ne travaille pas. Il y a le maquillage qui fonctionne pas. Est-ce que vous avez... » Donc, vous voyez des problèmes qui se posent pas aux hommes. L'homme, il suffit qu'il se rase, qu'il mette un beau costume et ça y est, il est prêt pour mener le grand discours sur le plateau télé. Et après, à l'issue de l'étude, nous avons essayé de faire une petite campagne de sensibilisation. Et le rapport femmes-médias, c'est un rapport très particulier en Tunisie. C'est vraiment un combat à mener, c'est vraiment une vision à mettre en urgence, en place, afin de pouvoir rééquilibrer un peu le paysage.
C'est un combat à mener, mais je pense que la femme tunisienne a une importance, une grande importance, on va dire, de la société tunisienne.
Et au niveau de la représentation, c'est très déséquilibré.
Les élections présidentielles furent un exemple. Il y a eu vraiment, une implication, de la femme tunisienne. J'en ai vu beaucoup vraiment s'impliquer vraiment dans ces élections. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Elles avaient vraiment partie prenante.
Et c'est justement ce qui dérange, c'est que la femme, sur le plan réel, elle est très impliquée dans la chose politique et la chose publique, mais lorsqu'on se dirige vers les médias, elle n'est presque pas représentée.
Je suis d'accord.
En tant que journaliste, vous êtes encore minoritaire, les filles, les femmes?
Alors non, on n'est pas du tout minoritaire, on est majoritaire, mais au niveau des postes clés, on est minoritaire.
Mais c'est la même chose dans très nombreux pays.
Voilà. Donc on peut avoir une vingtaine de journalistes femmes et 4 responsables hommes, voilà.
Et vous, les lycéens, qu'est-ce que vous ambitionnez comme destin pour vous plus tard? Alors, l'une d'entre vous, c'est Majda, qui veut être pompier de l'éducation nationale en Tunisie, finalement, hein, si j'ai bien compris. Mais pour vous, Sarah, Eskander, tous les deux, poursuivre l'expérience des médias que vous expérimentez ici?
Pourquoi pas? En fait, là, je suis totalement sincère, je sais vraiment pas quoi faire. Donc,
c'est pas anormal à 17 ans. Hein.
Et oui, voilà. Non, mais parce qu'en fait, quand on se compare à nos amis, ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Et puis, à moi, bon, l'année dernière, j'étais plutôt dirigée vers tout ce qui est donc journalisme. C'est pour ça que j'ai intégré la radio de l'école. Tout ce qui est et aussi la médecine, c'est intéressant aussi, le domaine du relationnel. Je sais pas, des métiers comme ça, mais cette année, c'est le blanc.
Et toi, Skander?
Moi, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Ce qui est sûr, c'est que j'envisage des études de commerce plus tard. Pas plus. Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard.
Qu'est-ce que le fait de participer à cette web radio dans votre lycée a changé en tant que lycéen, en tant que citoyen de la Tunisie, en tant que consommateur de réseaux sociaux et d'informations?
Moi, je me suis engagé surtout sur les coulisses de la radio. Et donc, j'ai adoré ces sensations de responsabilité. Au fait, à la radio de PMF, de notre lycée, on est totalement libre par rapport à la gestion de la radio. On a accès au studio quand on veut, à tout moment. Et donc, ça nous procure un sentiment
d'être adulte,
de responsabilité. Hein, et donc, j'ai adoré ça. Moi, c'est ce que j'aime dans la radio de mon lycée.
Et pour vous, Majda, Sarah, toutes les deux?
Ouais, ça a évolué, je crois, parce qu'au début, je venais comme invitée. Et du coup, je regardais beaucoup, beaucoup ce que les autres faisaient. Mais au fur et à mesure, je me suis dit que chercher les infos et surtout les donner aux gens, et c'était hyper important. Et après, je me suis focalisée aussi comme Skander sur le montage et la régie. Et du coup, ça donne une certaine polyvalence. Et je crois que ça va beaucoup, beaucoup me servir l'année prochaine, si je veux, en parallèle de mes études, continuer dans la radio. Parce que c'est ce que je compte faire. Voilà.
C'est-à-dire poursuivre des études et continuer la radio en même temps, hein, c'est ça?
Ouais.
Laurent Psalmon, vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en encadrant les élèves avec cette web radio?
Les fusions, l'engouement, c'est ça qui me... L'engouement qu'ils ont pour ce type, on va dire, de médias. Non, c'est ça qui m'anime. C'est un plaisir, on va dire, de travailler avec eux.
Donc à la maison, ils donnent des leçons à leurs parents maintenant.
Je pense,
mais...
C'est voir aussi l'implication qu'ils ont donnée. Ils ont eu la chance de faire une formation donc, au CAPGC et de voir finalement ce qu'ils ont pu produire en 3 jours de formation. Donc on en a eu un exemple tout à l'heure. Ça, c'est le fruit de 3 jours de formation et je trouve ça vraiment formidable.
Salma Bouraoui, comment vous les trouvez, là, la nouvelle génération, les lycéens, par rapport à... Ça vous replonge à vos années... Vous replongez dans vos années lycée ?
Non.
Assous ?
Assous, c'était avant la Révolution. On savait pas qu'il y avait les JT à 20h, par exemple. On regardait pas. De toute façon, il y avait pas de matière.
Je sais pas s'ils regardent plus, hein, mais enfin, en tout cas, ils ont les échos du JT sur Facebook.
Oui, mais eux, ils ont...
de la musique qu'ils mettaient lors de la présentation du président, lors du JT, avant la Révolution.
Non, moi, par exemple, je n'ai pas ce genre de souvenir parce que j'étais complètement déconnectée. J'étais entre les livres, entre les copains, entre les sorties, les études, bien sûr. On n'était pas... ils sont dans une nouvelle... ils ont une nouvelle fibre. Je les envie presque.
Eh bien, merci en tout cas à vous tous. Merci à vous, Laurent Psalmon, conseiller principal d'éducation au lycée Pierre Mendès France. Merci à vous, Skander, Majda, Sarah. Également, merci à toi, Frida, collégienne encore. Merci à vous aussi, bien sûr, Salma Bouraoui, jeune journaliste. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Jérémy Bessé à Tunis, Romain Dubrac, Camille Néron pour l'équipe à Paris. Demain, 7 milliards de voisins. Deuxième et dernière émission à Tunis. Nous donnerons la parole à la société civile qui se mobilise pour les droits des femmes et pour faire évoluer les lois davantage dans le sens de leur protection. À demain, les voisins et les voisines, on compte sur vous. On sera toujours à Tunis.
Milliards de voisins, c'est fini.